avions vu les premières paraboles du royaume, et ces paraboles insistaient à la fois sur la force, sur la puissance de germination qui est dans le royaume qui est venu dans ce monde avec le Christ, mais en même temps elles insistaient sur le contraste qu'il y a entre l'aspect présent du royaume, son aspect humble, peu apparent, et puis son achèvement eschatologique. Et l'annonce de cet achèvement, de cette plénitude du royaume, permettait de percevoir, mais avec les yeux de la foi, tout ce que recèle de grandeur, de puissance, humble du royaume. Et au fond, c'est tout le mystère de la croix qui nous est ainsi signifié, le fait que le Christ établit son royaume par la croix. Mais la croix recèle en elle déjà la gloire de la résurrection. Au fond, si nous voulons lire en clair ces paraboles, c'est à cela que nous sommes amenés. Aujourd'hui, nous verrons une seconde série de paraboles qui concernent toujours le royaume de Dieu, mais qui mettent l'accent cette fois davantage sur ce que le royaume de Dieu exige de ceux qui le rencontrent. Quelles sont les exigences du royaume, quelles sont les conditions de son accueil. Ces paraboles sont la parabole du trésor et celle de la perle précieuse, qu'on peut étudier ensemble parce qu'elles ont à peu près la même signification. La parabole de l'homme qui veut bâtir une tour et du roi qui part en guerre, que l'on peut également réunir. Puis les petites paraboles du sel, de la lampe, de l'arbre et de ses fruits. Donc tout d'abord, la parabole du trésor et de la perle précieuse. Voici le texte. C'est une parabole qui ne se trouve que dans Saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 46. En voici le texte. Le règne des cieux, ou le royaume des cieux, est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, l'a caché, l'a recaché après l'avoir trouvé, et dans sa joie, il va et vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Donc un homme, n'est-ce pas, qui découvre qu'un champ qu'il laboure, qui ne lui appartient pas, contient un trésor, il recache le trésor, vend tout ce qu'il a et achète le champ pour posséder le trésor. Le royaume des cieux est encore semblable à un homme marchand, cherchant de belles perles. Ayant trouvé une perle précieuse, il s'en alla, vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Dans ces deux paraboles, et dans la première surtout, le Seigneur ne développe pas seulement l'idée qu'un don total et sans réserve est exigé de celui qui découvre le royaume. Il y a une petite incise qui est très importante et qui, au fond, est peut-être ce qui nous livre essentiellement la clé de cette parabole. Dans sa joie, il va et vend tout ce qu'il a. Dans sa joie. Et Jérémias, commentateur contemporain des évangiles et spécialement des paraboles du Christ, nous dit, à propos de ce passage, « Les mots décisifs sont ravis de joie. Lorsqu'une grande joie, une joie qui dépasse toute mesure, saisit un homme, elle le soulève, l'empoigne jusqu'au plus profond de lui-même et terrasse son bon sens. Tout pâlit devant l'éclat de la découverte. Aucun prix n'est trop élevé, il va alors de soi d'abandonner spontanément ce qu'on a de plus précieux. Ceux qui ont trouvé le trésor ou la perle sont subjugués par l'importance de leur découverte et par suite sacrifient tout leur avoir. Ainsi en est-il du royaume de Dieu, la bonne nouvelle subjugue, provoque une joie immense et c'est cette joie qui rend capable et qui entraîne en quelque sorte presque nécessairement le renoncement à tout le reste. Donc ce qui est premier peut-être dans cette parabole, c'est cette joie de la rencontre du royaume. Et c'est là une idée qui est présente un peu partout dans les évangiles et même dans les textes d'Ancien Testament, les textes messianiques et plus explicitement messianiques de l'Ancien Testament. Dans les évangiles, c'est l'évangéliste Saint Luc qui, dans le détail des récits, a le plus souvent insisté sur cette joie que provoque l'avènement du royaume de Dieu et que provoque par conséquent tous les faits qui sont liés à l'avènement de ce royaume. Ceci dès les évangiles de l'enfance. En effet, prenez par exemple l'annonce à Zacharie, l'annonce de l'ange à Zacharie, nous lisons « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Et puis, au moment de la visitation, n'est-ce pas, nous voyons Élisabeth dire à la Mère de Dieu « Dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Et un peu plus loin encore, au chapitre 2e, lors de l'annonce au berger, « Soyez sans crainte, car je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. » La joie est vraiment, pourrait-on dire, le signal de l'apparition du royaume, le signal de l'avènement des temps eschatologiques, dans la mesure où ces temps sont commencés avec le Christ, le signal de l'avènement des temps messianiques. Et ces textes des évangiles font écho à des textes d'Ancien Testament dont ils manifestent ainsi l'accomplissement. Prenez par exemple, mais il y en aurait d'innombrables, mais dans Isaïe, au chapitre 35, un très beau texte que vous connaissez, mais qu'il est toujours bon de relire en le rapprochant de ces textes évangéliques, Isaïe 35, 1 et 10. Que soit plein d'allégresse, désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, comme l'asphodèle qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et pousse des cris. La gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et de Saron, c'est eux qui verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Il s'agit bien là du triomphe de Jérusalem à l'époque messianique. Et un peu plus loin, ceux qu'a libéré le Seigneur reviendront, ils arriveront à Sion, criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les accompagneront, la douleur et les plaintes cesseront. De même, un texte bien connu du prophète Sophonie, Sophonie 13, 44 à 52. Excusez-moi, je crois que c'est 3. Oui, c'est Sophonie 3. Sophonie 3, 14 et 17. Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi, il a détourné ton ennemi, le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. C'est déjà l'annonce du royaume de Dieu qui est au-dedans de nous. Tu n'as plus de malheur à craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, que tes mains ne défaillent pas, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur. Il exultera pour toi de joie, il te renouvellera par son amour, il dansera pour toi et des cris de joie comme au jour de fête. Et la suite du texte décrit la restauration d'Israël à l'époque messianique. Et quand nous lisons le livre des Actes, qui est de Saint Luc aussi, car c'est Saint Luc, encore une fois, qui dans le Nouveau Testament, dans aussi bien son évangile que dans les Actes, souligne le plus ce climat de joie qui pénètre à la fois les disciples et les apôtres même du vivant du Christ, tous les témoins des événements de la vie du Christ, lorsqu'ils en réalisent la signification profonde, mais aussi les disciples, les fidèles de l'Église primitive. Par exemple, dans le livre des Actes, un récit entre bien d'autres, au chapitre 13, 44. C'est un texte qui est intéressant parce qu'il montre, d'une part, il met en parallèle le refus d'Israël et la joie des païens qui entrent dans l'Église. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. À la vue de cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils répliquaient par des blasphèmes aux paroles de Paul. S'enhardissant alors, cette hardiesse, la parisia, la liberté de parole, n'est-ce pas, de ceux des apôtres qui se sentent remplis de l'Esprit-Saint. Donc, s'enhardissant alors, Paul et Barnabé déclarèrent « C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les païens. C'est ainsi que l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi lumière des nations pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc nous sommes bien en présence de l'accomplissement par excellence d'un des grands oracles messianiques de l'Ancien Testament. Tout joyeux à ces mots, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur. Et tous ceux-là embrassèrent la foi qui était destinée à la vie éternelle. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Et quelques lignes plus loin, quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et de l'Esprit-Saint. Et cette équivalence entre être rempli de joie, être rempli de l'Esprit-Saint. Donc tous ces textes nous montrent bien que la découverte du royaume, la rencontre du royaume dans la foi, se traduit par cette joie, cette exultation intérieure. Ce n'est pas simplement une joie psychologique, je dirais, mais c'est véritablement le signe de la présence de l'Esprit-Saint, le signe de cet avènement des temps messianiques, de cette effusion ultime de l'Esprit-Saint au dernier jour. Et tout à fait à l'inverse, n'est-ce pas, nous voyons la tristesse que peut engendrer, au contraire, le refus du royaume. Là, l'épisode tout à fait classique que l'on peut présenter en antithèse de notre parabole, c'est justement le refus du jeune homme riche, avec cette insistance sur sa tristesse. Pas le Christ lui rappelle les exigences du royaume, non seulement accomplir les commandements, ce qu'il fait, mais le Christ ajoute, ayant entendu sa réponse, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse, Jésus lui dit alors, il ne te manque plus qu'une seule chose, tout ce que tu possèdes, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, viens et suis-moi. C'est bien le trésor, n'est-ce pas, la perle précieuse. Mais lui, ayant entendu cela, devint triste, car il était très riche. Donc là, il y a ce refus de ce don total, ce refus de l'acceptation du royaume de sa plénitude, et qui a pour corollaire la tristesse. Et une tristesse qui est aussi, je dirais, une tristesse théologale, en creux. Mais c'est exactement l'inverse de cette joie de l'Esprit-Saint qui remplit ceux qui accueillent le royaume. Donc, ce qui est en quelque sorte la pointe de notre parabole, c'est cette joie qui est liée à la découverte du royaume de Dieu. Mais cette joie entraîne immédiatement, comme conséquence, je dirais logique, le renoncement à tout. Lorsqu'on a découvert la perle précieuse, lorsqu'on a découvert le trésor, eh bien, il y a une sorte de logique interne de la foi et de la joie dans l'Esprit-Saint qui fait que l'on renonce à tout. Et ce renoncement, nous en avons le témoignage, notamment dans la vocation des apôtres. Saint Matthieu, dans ce texte, lorsqu'il raconte cette parabole de la perle et ces paraboles de la perle et du royaume, en quelque sorte, nous livre des textes presque autobiographiques, car c'est bien l'expérience qu'il a fait lui-même. Relisons le récit de sa propre vocation. Donc Jésus considéra un publicain nommé Lévi, assis au bureau de la douane, et il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout et se levant, il le suivit. Et c'est bien là la rencontre du royaume, n'est-ce pas, et la découverte de la perle précieuse. Et cet abandon de toute chose, on le retrouve dans les autres vocations des apôtres. Par exemple, après la pêche miraculeuse, pas lors de la première vocation la vocation définitive des premiers apôtres, quand le Christ dit à Simon et à ses compagnons, n'est-ce pas, ne crains pas, désormais tu prendras des hommes, tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, quittant tout, ils le suivirent. Donc nous voyons là, dans la pratique, n'est-ce pas, comment se traduit cette découverte du royaume de Dieu, qui est le Christ, qui est présent dans le Christ. Et tous les commentateurs de ces textes ont toujours souligné le fait que ce n'est pas un type de vocation particulière dans lequel nous sommes mis en présence. C'est pas, bien sûr, les apôtres sont amenés à quitter tout, je dirais tout à fait matériellement, mais leur vocation est le type de la vocation de tout disciple du Christ. Quelquefois, à une époque beaucoup plus tardive, on a vu dans ces textes, n'est-ce pas, on les a interprétés en fonction d'une distinction entre ce qu'on a appelé parfois préceptes et conseils. Comme si il était prescrit à tous, bon, d'accomplir les commandements, de ne pas tuer, de ne pas voler, d'aimer son prochain, et puis que le fait de tout quitter pour le Christ n'était qu'un conseil. En fait, ce à quoi tous ne sont pas appelés, c'est à tout quitter matériellement pour le Christ. Mais il y a un renoncement intérieur, un renoncement très réel cependant, qui est lié essentiellement à toute vocation chrétienne. Par exemple, l'un des derniers parmi les pères en Occident avant la séparation, Saint Bède le Vénérable, le grand docteur de l'Angleterre chrétienne, écrit ceci. Il y a une différence entre renoncer à tout et quitter tout, car il n'est possible qu'à un petit nombre de tout quitter, au sens matériel du mot, au sens d'une vocation monastique, tandis que tous les fidèles doivent renoncer à tout, c'est-à-dire posséder les choses de ce monde, de manière à ne pas être possédés par elles, ce qui est très beau comme expression. Tout fidèle, n'est-ce pas, doit, à partir du moment où il a rencontré le royaume de Dieu, eh bien, doit renoncer à tout au sens de posséder les choses de ce monde de manière à ne pas être possédé par elles. Et c'est ce que saint Paul nous dit dans la première aux Corinthiens, première aux Corinthiens 7, 29, un texte qui est également bien connu, mais qui rejoint tout à fait ce que nous lisons aujourd'hui. Je vous le dis, frère, le temps se fait court. Cette expression, le temps se fait court, n'est-ce pas, est à peu près l'équivalent de la grande annonce évangélique, le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est tout proche. Le temps est en quelque sorte raccourci, n'est-ce pas, parce qu'on arrive à la fin des temps. C'est le moment de l'avènement du royaume, c'est le moment du choix décisif. Que désormais, ceux qui ont femme vivent comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie, comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui usent de ce monde, comme s'ils n'en usaient pas vraiment. Car elle passe la figure de ce monde. Et là encore, il ne s'agit pas d'une simple considération, je dirais, philosophique sur le caractère transitoire des choses terrestres, mais de l'annonce de la proximité immédiate du royaume. La figure de ce monde passe parce que le royaume est là. Et en face de ce royaume, il n'y a plus que lui qui a véritablement du prix. Et son arrivée, son imminence, relativise tout le reste. Donc c'est bien le sens, encore une fois, de cette parabole. Les deux paraboles suivantes dont je voulais vous parler aujourd'hui, celle de l'homme qui veut bâtir une tour et du roi qui part en guerre, rejoignent d'une certaine manière cette exigence de renoncement total qui est la conséquence de la rencontre du royaume. Voici ces deux paraboles qui sont propres à Saint-Luc cette fois. Mais il est intéressant de voir justement dans quel contexte elle s'insère. C'est pourquoi je remonte un petit peu plus haut et je vous lis les versets qui précèdent les deux paraboles dans l'évangile de Saint-Luc. Comme des foules nombreuses le suivaient, il se tourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi et cependant ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même encore son âme, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas à ma suite ne peut être mon disciple. Car, la liaison est importante, ça montre bien que la parabole qui vient doit être comprise à partir de ces exigences qui viennent d'être présentées. Car parmi vous, en est-il un qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye d'abord pour calculer la dépense et savoir s'il aura de quoi achever? Autrement, s'il pose le fondement et qu'il ne soit pas à même de terminer, tous ceux qui s'en apercevront se prendront à le tourner en ridicule, disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été à même de terminer. » Ou bien, quel roi, parti pour combattre un autre roi à la guerre, ne s'assied d'abord pour délibérer s'il peut tenir tête avec 10 000 hommes à celui qui vient avec 20 000? Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade pour demander à faire la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce à tous ses biens ne peut être mon disciple. Il est donc important d'interpréter cette parabole en fonction de ces deux appels au renoncement total entre lesquels elle se trouve encadrée. En effet, si nous interprétions la parabole en fonction d'une logique, je dirais, trop occidentale, d'une logique trop rigide, on pourrait avoir l'impression que le Christ nous invite simplement à réfléchir sur ce qu'implique l'accueil du royaume et le rendrait en quelque sorte facultatif. Un peu comme s'il nous disait, eh bien, sachez à quoi vous engagez, si vous n'avez pas envie, eh bien, renoncez à poursuivre le royaume. Ne cherchez pas quelque chose qui est au-dessus de vos forces. Or, cette parabole ne signifie pas du tout « ne cherchez pas le royaume, renoncez d'avance à vous battre si vous sentez que vous n'avez pas les forces ». Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit, ce n'est pas le sens du tout de la parabole. C'est une tournure sémitique, si vous voulez. Et ce que le Christ veut dire simplement, c'est « réalisez bien ce à quoi vous vous engagez ». Et réalisez bien quelles sont les implications de la rencontre du royaume, quelles sont les implications du fait de vous déclarer mes disciples. Ça ne veut pas dire du tout, encore une fois, que c'est facultatif, mais il s'agit de bien peser ce qu'implique cet engagement à la suite du Christ. Et comme le dit encore cet exégète que je vous citais tout à l'heure, Jérémias, Jésus ne cesse d'intimider ceux qui s'enthousiasment de lui en leur faisant prendre conscience de la difficulté qu'il y a à se mettre à sa suite. Donc c'est bien cela, la pointe de la parabole. Ce n'est pas du tout une invitation à différer, ce n'est pas du tout une invitation à ne pas s'engager si on n'a pas les forces voulues, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit, mais c'est de bien réaliser tout ce à quoi engage le fait d'être disciple du Christ. Et cette parabole s'oppose directement, je dirais, ce que est une mise en garde à un enthousiasme trop facile, un enthousiasme superficiel. Cet enthousiasme même des foules galiléennes qui s'enthousiasment pour le Christ comme pour un leader politique, comme pour un héros séduisant, mais qui n'ont pas du tout mesuré ce que cela implique. Et là encore, finalement, c'est tout le mystère de la croix que nous entrevoyons. Il ne s'agit pas du tout, en se mettant à la suite du Christ, en quelque sorte de s'engager dans une voie de triomphe facile, d'exaltation humaine et d'enthousiasme humain, mais il s'agit de s'engager véritablement dans la voie du renoncement total et de la croix. C'est toujours ce mystère du royaume salué par la croix qui est à l'horizon des paraboles. Et c'est bien ce qu'ont vu les pères de l'Église aussi. Par exemple, ce texte de saint Basile. L'intention du Seigneur, dans ces deux paraboles, n'est pas de donner à chacun le droit et la permission d'être ou de n'être pas son disciple. Enfin, c'est cette conception, je dirais, trop, une logique trop, trop occidentale qui l'écarte. Comme on ne peut pas poser de fondement ou ne pas faire la paix. Ce sont des choses qui sont exigées de tous en soi. Mais il a voulu montrer l'impossibilité de plaire à Dieu au milieu des choses qui distraient l'âme et la mettent en péril, parce qu'il devient plus accessible aux embûches et aux pièges du démon. Donc, impossible de plaire à Dieu si on ne se détache pas intérieurement de tout ce qui peut nous détourner du royaume. Donc, cette parabole rejoint par un autre biais les deux paraboles précédentes du royaume et de la paix. Nous sommes toujours en face des exigences, cette exigence de renoncement total, de détachement profond, de relativisation de tout ce qui n'est pas le royaume de Dieu, qui est absolument lié à la découverte du royaume. Et d'une autre manière, c'est encore l'enseignement que nous allons trouver dans les trois dernières paraboles que nous devions examiner aujourd'hui aussi. Celle du sel, celle de la lampe et celle de l'arbre et de ses fruits. Je vous les relis également. Dans Saint Matthieu. La parabole, tout d'abord, du sel de la terre et de la lumière du monde. Ce ne sont pas, si vous voulez, des paraboles au sens strict. Ce sont des comparaisons que le Christ emploie. Elles n'ont pas le caractère d'un récit parabolique, mais ce sont comme des comparaisons donc, que l'on peut traiter parmi les paraboles. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher qui est sise au sommet d'une montagne. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et de ces deux paraboles, vous verrez pourquoi tout à l'heure, je rapprocherai aussi la comparaison de l'arbre et de ses fruits que l'on trouve un peu plus loin dans Saint Matthieu au chapitre 7. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Et la suite de ce texte, je ne vous ai pas cité le contexte antérieur, parce que se trouve dans Saint Matthieu, greffé à une parole du Christ sur les faux prophètes, méfiez-vous des faux prophètes, qui ne fait peut-être pas partie du contexte primitif de cette parabole. C'est légitime, et Saint Matthieu a très légitimement rapproché les deux textes, parce que le cas des faux prophètes est bien un cas particulier où s'applique cette parabole, et cette parabole sera un appel au discernement justement dans le cas des faux prophètes, mais sa signification est plus large, et c'est bien ce qu'indique le contexte qui suit. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, au jour du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait des miracles ? Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connus, « écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Et c'est au fond une sorte de petite parabole encore qui vient se greffer sur cet enseignement. La pluie est tombée, les torrents sont venus, Les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé, car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, elle s'est écroulée et grande a été sa ruine. En effet, quand nous lisons un texte comme celui de la lampe, notamment sur le chandelier, nous pourrions interpréter un texte de ce genre comme un simple appel à donner le bon exemple. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, le sel c'est ce qui empêche les aliments de se corrompre, une sorte de ferment, d'incorruptibilité d'une certaine manière, et la lumière du monde est aussi une image extrêmement biblique pour exprimer le royaume comme lumière. Mais en invitant les apôtres apparemment à ne pas mettre cette lampe sous le boisseau, on pourrait penser que le Christ les invite simplement à donner le bon exemple et même à se montrer en exemple au monde. En fait, je pense qu'il ne s'agit pas exactement de cela, ce n'est pas l'intention directe de cette parabole, et le Christ ne nous invite pas à avoir comme but de briller aux yeux des hommes, bien sûr, mais précisément de mettre en pratique son enseignement, de ne pas nous contenter de dire « Seigneur, Seigneur », de ne pas nous contenter d'adhérer extérieurement et superficiellement à sa doctrine, à son message, mais de le mettre en pratique. C'est une invitation à traduire en œuvre, à traduire par tout un comportement notre adhésion au message qui nous est proposé. Et ce comportement, eh bien, il n'est pas détaillé ici, mais nous pouvons tout à fait rapprocher cela de ce que nous avons dit précédemment, n'est-ce pas ? Et c'est encore ce renoncement total, finalement. Et cette pratique de tous les commandements du Seigneur avec tout ce que cela implique de transformation profonde de la vie. C'est en nous d'abord que ce sel produira ses effets, nous donnera saveur, n'est-ce pas ? Et la lumière, eh bien, se luira en nous dans la mesure, au sens précis, où nos bonnes œuvres seront illuminées, seront la traduction de cette mise en œuvre de ce qui nous est donné par le Christ. C'est donc directement une invitation qui rejoint les précédentes à traduire par tout notre comportement, par un changement profond de notre être, en réponse à la grâce donnée, à l'irruption en nous de l'Esprit Saint, finalement, cette joie nouvelle, cette présence de l'Esprit, n'est-ce pas, qui doit transformer tout notre être. Car encore une fois, n'est-ce pas, nous l'avions vu en commençant ce commentaire des paraboles, l'essentiel du message du Christ, et il faut toujours y revenir, n'est pas simplement un message de sagesse, un message nous donnant un certain nombre de prescriptions morales, mais c'est l'annonce d'une transformation profonde qui s'effectuera en nous d'abord par un don gratuit de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est d'abord cela, c'est d'abord au fond l'Esprit Saint qui nous est donné par le Christ, et c'est l'Esprit Saint qui est en même temps source de joie, source de transformation intérieure profonde, mais encore faut-il que nous y apportions notre consentement. C'est toute la doctrine traditionnelle des Pères, n'est-ce pas, sur la synergie, toute la tradition ascétique de l'Église ne fera que développer cela en montrant que nul ne peut, que Dieu n'agit pas en nous sans nous, nul ne peut se sanctifier, être sanctifié malgré lui, mais que le don de Dieu requiert absolument une coopération de notre part, le consentement de notre liberté, et cette transformation qui s'opère en nous sera absolument inséparablement le fruit du don de Dieu, le fruit de l'annonce du royaume, le fruit du don de l'Esprit Saint, dont l'Évangile, le message central de l'Évangile, n'est-ce pas, est l'annonce, mais en même temps impliquant cette coopération, cette correspondance de notre part. Et ces paraboles que nous venons aujourd'hui de commenter, n'est-ce pas, insistent essentiellement là-dessus. Donc, encore une fois, n'est-ce pas, c'est toujours cette invitation à entrer dans ce mystère du royaume par la porte étroite, par la voie de la croix que nous devons porter à la suite du Christ. J'en resterai là aujourd'hui, ce n'est pas très long à commenter, mais vous aurez peut-être des questions et des précisions à demander. C'est un trait qui a une signification particulière, ce n'est pas allégorisé, c'est un trait qui est lié simplement au récit, en ce sens qu'il n'est pas propriétaire du champ, pour que Jean puisse intervenir ensuite, n'est-ce pas, l'idée de tout vendre pour l'acquérir, eh bien, cela présuppose qu'il n'est pas le propriétaire du champ. Le champ n'est pas à lui. Il s'est aperçu fortuitement, peut-être parce qu'il travaillait pour le compte de quelqu'un, n'est-ce pas, qu'il y avait un trésor dans ce champ, mais donc il lui reste à l'acquérir. Alors c'est pour ça qu'il le recache, pour le mettre à l'abri, pour le dissimuler, acheter le champ et ensuite pouvoir alors prendre le trésor. Mais ceci est demandé par la cohérence du récit, mais il n'est pas un trait qui, comme tel, a une signification spirituelle particulière, me semble-t-il. En tout cas, je n'ai pas trouvé chez les pères du tout de commentaires et d'allégorisation de ce détail. Auxquels les pères ou la tradition chrétienne fait souvent appel, mais dont le sens est assez obvious. Simplement, il faut écarter quelques interprétations fausses, nous pourrions tenter parfois de faire, comme je vous l'ai indiqué, mais en soi, ce ne sont pas des paraboles dont on peut allégoriser chaque détail, dont on puisse tirer une leçon qu'on puisse monnayer de façon très précise. Ça rejoint simplement les grandes affirmations de la tradition chrétienne.
Et aussi, pourquoi est-ce que le roi qui part en guerre contre l'autre part avec beaucoup moins de troupes et non pas des troupes égales?
Eh bien, là encore, n'est-ce pas, c'est simplement demandé par la nature du récit, puisque il s'agit de réfléchir et de voir à quoi ça l'engage, mais là non plus, il n'y a pas de signification particulière à cette inégalité des forces. On ne pourrait pas en déduire, par exemple, que, je ne sais pas, que le chrétien se trouve dans un adversaire beaucoup plus fort que lui, ou choses comme ça. Non, ce n'est pas le sens direct de la parabole, qui veut simplement inviter à réaliser, tout ce que ça va exiger de lui. Oui.
Est-ce qu'on dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère? Je pense qu'il faut interpréter ça, à mon avis, dans le sens de l'homme deviendra adulte, responsable. C'est assez facile à comprendre. Mais là, la parabole, il faut haïr son père et sa mère, j'avoue que ça ne passe pas.
Oui, eh bien, il y a deux choses très différentes. Il y a le texte de la Genèse où l'on dit que dans le mariage, l'homme quitte son père et sa mère. Mais alors là, on est dans l'ordre des choses naturelles. Et comme vous le dites très bien, c'est l'accession de l'homme à un état adulte, n'est-ce pas simplement. Mais c'est de l'ordre de la nature. Tandis que lorsqu'il est dit de haïr son père et sa mère, bon, là encore, il faut le comprendre au sens sémitique du mot, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas d'une haine au sens français du mot, c'est là que le vocabulaire sémitique est très différent de nos modes d'expression français, mais il s'agit justement de peser tout ce qu'implique le royaume et d'être prêt à tout quitter si la fidélité au royaume le demande, n'est-ce pas ? De ne plus avoir d'attache affective à ce qui n'est pas le royaume dans toute la mesure où cela pourrait entrer en concurrence avec le royaume. Et le fait même de la découverte du royaume est quelque chose qui doit tellement nous séduire que le reste perd son importance, devient relatif. Alors haïr son père et sa mère, cela voudra dire deux choses, n'est-ce pas ? D'une part, que le royaume de Dieu et ce don de Dieu, ce don de cette participation à la vie divine, au fond, à laquelle nous sommes appelés, n'est-ce pas, ce don des énergies divines, cette entrée dans le mystère même de Dieu, est quelque chose de tellement grand que toutes les valeurs humaines, si grandes et si légitimes soient-elles, n'ont plus de poids, en quelque sorte, en face. Et alors, ceci entraîne aussitôt comme conséquence que s'il y a un conflit entre les deux, eh bien, évidemment, tout ce qui est d'ordre terrestre doit être immédiatement sacrifié. C'est ça que ça veut dire simplement. Par exemple, en temps de persécution ou autre, eh bien, il ne faudrait pas que l'attachement aux parents ou autre amène à trahir la foi. Et dans le détail de la vie aussi, n'est-ce pas, nous pouvons avoir quantité de situations où nous avons tout de même à choisir entre la fidélité au royaume de Dieu, l'attachement aux valeurs du royaume, et puis des réalités terrestres qui en elles-mêmes sont parfaitement légitimes, mais qui peuvent entrer en conflit avec notre attachement à Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, il faut bien savoir ce qu'implique l'attachement vrai au Christ, l'engagement véritable à la suite du Christ, et tout ce que cela peut nous demander comme renoncement. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'une invitation à haïr le père et mère, n'est-ce pas, tel qu'on le comprendrait en français.
Parce que très souvent, la tradition nous est transmise justement par les parents.
Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais ceci, justement, n'entre pas du tout, n'est pas en contradiction avec ce que nous dit l'Évangile. L'Évangile n'a pas abrogé du tout le commandement de demeurer son père et sa mère, n'est-ce pas ? C'est seulement une certaine relativisation des valeurs terrestres et une nécessité de le renoncer, alors de les abandonner quand il y a conflit.
Il y a mis en disant qu'il faut haïr son âme, sa propre âme.
Oui, 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 c'est-à-dire se haïr soi-même, haïr son moi charnel, n'est-ce pas ? C'est un renoncement. Oui, oui. Et déchu, oui, et même son moi, je dirais, trop individuel, enfin, son moi se faisant centre du monde, n'est-ce pas ? Oui. La personne ne s'épanouit dans une oblativité totale. Une oblativité, une attitude de don de soi. Oui.
Je suis un tout petit peu gêné ici parce que je ne vois pas le côté ecclésial dans cet acte. Il faut acheter l'autre terrain parce qu'il a un trésor.
Oui.
Surtout un égoïsme personnel.
Non, ce n'est pas un égoïsme personnel, parce que ce trésor, c'est aussi l'Église, c'est aussi la découverte de l'Église, c'est aussi la découverte de la véritable charité chrétienne, du véritable amour des autres. Tout ceci fait partie du royaume. Par conséquent, ce que nous sommes invités, c'est à renoncer à tout égoïsme proprement dit, pour estimer que la valeur suprême, c'est au contraire le don de soi total à Dieu et aux autres. La charité chrétienne est un des éléments constitutifs du royaume. Et justement, c'est en découvrant ce qu'est l'amour de Dieu, ce qu'est l'amour du prochain, que nous devons être prêts à renoncer à tout ce qui serait purement égoïste. Mais le fait de chercher, ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que le fait de chercher la perfection chrétienne, n'est-ce pas, de chercher la pleine fidélité à l'Évangile, n'est pas un égoïsme. Bien sûr, c'est le plus grand bonheur et la plus grande richesse qui puisse nous être offert, mais qui ne se réalise que dans le renoncement total à soi-même. Je dirais qu'il y a une sorte d'égoïsme supérieur qui n'est pas de l'égoïsme du tout, parce que ça implique que l'on renonce à son moi, que l'on renonce à son âme, comme vous disiez, n'est-ce pas ? Et par conséquent, il n'y a aucun égoïsme en cela.
Oui, mais il y a la joie, quelque chose qui...
Oui, mais c'est une joie qui n'est pas du tout une joie qui se clôt sur elle-même et qui nous clôt sur nous-mêmes, n'est-ce pas ? Au contraire, c'est la joie de la communion, c'est la joie de la communion plénière avec Dieu et avec les autres. Bon. De toute manière, n'est-ce pas ? Dès lors que nous sommes créatures, si vous voulez, bien sûr, notre vie chrétienne participe à la gratuité qui est en Dieu. Mais nous ne pouvons jamais avoir une attitude, une gratuité totale, parce que ça suppose à ce moment-là que nous soyons nous-mêmes à la place de Dieu, en quelque sorte. Et inévitablement, dès lors que nous sommes des créatures qui sommes en état de manque, qui n'avons pas en nous la plénitude, eh bien, inévitablement, il y aura toujours un aspect non pas intéressé, parce que là encore, n'est-ce pas, il y a une différence... absolument de profonde, une différence de nature, n'est-ce pas, entre le désir spirituel véritable, qui n'est pas de nature égoïste, et puis le désir non transfiguré, qui lui est égoïste, qui tend la satisfaction du moi charnel, du moi non transfiguré. Tandis que le désir spirituel a bien cet aspect de désir et d'une certaine appétence, je puis dire, n'est-ce pas, mais qui n'a pas, à ce moment-là, si on comprend bien sa nature, de caractère égoïste, parce que justement, on réalise que le vrai bonheur et la vraie joie est dans le renoncement à tout repliement sur soi-même et à toute joie et à tout bonheur égoïste. Et c'est difficile, je ne sais pas si vous le sentez, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est très important, parce qu'il y a aussi un espèce de faux désintéressement qui est finalement une forme d'orgueil. Parce que ça implique, en quelque sorte, que on a besoin de rien et de personne. Vous savez qu'il y a une tradition islamique d'après laquelle le péché de Satan aurait été d'avoir dit à Dieu « Je veux te servir pour toi seul et sans aucun intérêt personnel ». Le péché de Satan aurait été de vouloir aimer Dieu d'un amour totalement désintéressé, ce qui était se mettre à la place de Dieu. Il y a un orgueil très subtil qui peut se glisser dans une certaine forme de désintéressement. Oui. Oui.
C'est pas désincarné. Il faut bien qu'on ait soi-même une réalité. Or, on a une réalité de désir. On a un être et on ne peut pas s'anéantir.
Non. Non, et c'est, dès lors que nous sommes créatures, nous sommes inévitablement en position de manque et de besoin, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître.
L'autre position pourrait rejoindre les philosophies extrêmes orientales qui vont jusqu'à nier Dieu.
Qui s'anéantissent.
Oui.
Qui s'anéantissent complètement.
Oui. Et à ce moment-là, il n'y a plus même de Dieu.
C'est ce qui est toujours un petit peu troublant dans les dites bouddhistes, par exemple, n'est-ce pas? Où d'un côté, on a une attitude qui, sans nommer le Christ, ressemblerait beaucoup à une étude chrétienne, et puis en même temps, c'est un peu troublant de voir cette insistance sur le fait, justement, que l'homme ne doit compter sur personne, sinon sur ses propres forces, sa propre volonté, n'est-ce pas? Et là, j'ai eu l'occasion de parler à des bouddhistes tibétains, et c'est un des points sur lesquels ils insisteront le plus, n'est-ce pas? Que tout dépend de nous, que tout dépend uniquement des forces de l'homme, uniquement de l'effort de l'homme, et que nous n'avons à compter sur personne et sur rien en dehors de nous. Et alors là, on ne sait pas finalement si c'est une manière maladroite de formuler quelque chose qui pourrait être une expérience chrétienne, ou si au notre vie chrétienne participe à la gratuité qui est en Dieu, mais nous ne pouvons jamais avoir une vie d'une gratuité totale, parce que ça suppose à ce moment-là que nous soyons nous-mêmes à la place de Dieu, en quelque sorte. Et inévitablement, dès lors que nous sommes des créatures qui sommes en état de manque, qui n'avons pas en nous la plénitude, eh bien, inévitablement, il y aura toujours un aspect non pas intéressé, parce que là encore, n'est-ce pas, il y a une différence absolument de profonde, une différence de nature, n'est-ce pas, entre le désir spirituel véritable, qui n'est pas de nature égoïste, et puis le désir non transfiguré, qui lui est égoïste, qui tend la satisfaction du moi, du moi charnel, du moi non transfiguré. Tandis que le désir spirituel a bien cet aspect de désir et d'une certaine appétence, si je puis dire, n'est-ce pas, mais qui n'a pas, à ce moment-là, si on comprend bien sa nature, de caractère égoïste, parce que justement, on réalise que le vrai bonheur et la vraie joie est dans le renoncement à tout repliement sur soi-même et à toute joie et à tout bonheur égoïste. Je ne sais pas si vous le sentez, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je crois que c'est très important, parce qu'il y a aussi un espèce de faux désintéressement qui est finalement une forme d'orgueil. Parce que ça implique en quelque sorte que, on a besoin de rien et de personne. Vous savez qu'il y a une tradition islamique d'après laquelle le péché de Satan aurait été d'avoir dit à Dieu « Je veux te servir pour toi seul et sans aucun intérêt personnel ». Le péché de Satan aurait été de vouloir aimer Dieu d'un amour totalement désintéressé, ce qui était se mettre à la place de Dieu. Il y a un orgueil très subtil qui peut se glisser dans une certaine forme de désintéressement. Oui. Oui.
C'est pas désincarné. Il faut bien qu'on ait soi-même une réalité. Or, on a une réalité de désir. On a un être et on peut pas s'anéantir.
Non. Non, et c'est, dès lors que nous sommes créatures, nous sommes inévitablement en position de manque et de besoin, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître.
L'autre position pourrait rejoindre les philosophies extrêmes orientales qui vont jusqu'à nier Dieu.
Qui s'anéantissent.
Oui.
Qui s'anéantissent complètement.
Oui.
Et à ce moment-là, il n'y a plus même de Dieu.
C'est ce qui est toujours un petit peu troublant dans les dites bouddhistes, par exemple, n'est-ce pas? Où d'un côté, on a une attitude qui, sans nommer le Christ, ressemblerait beaucoup à une étude chrétienne, et puis en même temps, c'est un peu troublant de voir cette insistance sur le fait, justement, que l'homme ne doit compter sur personne, sinon sur ses propres forces, sa propre volonté, n'est-ce pas? Et là, j'ai eu l'occasion de parler à des bouddhistes tibétains, et c'est un des points sur lesquels ils insisteront le plus, n'est-ce pas? Que tout dépend de nous, que tout dépend uniquement des forces de l'homme, uniquement de l'effort de l'homme, et que nous n'avons à compter sur personne et sur rien en dehors de nous.
Alors là, on ne sait pas finalement si c'est une manière maladroite de formuler quelque chose qui pourrait être une expérience chrétienne, ou si au contraire, ce n'est pas une forme tout à fait raffinée d'orgueil. C'est très difficile de discerner de quoi il s'agit exactement.
Oui, à la fin, il y a la grâce.
Il y a la grâce peut agir partout. Il y a des hommes, n'est-ce pas, de droit qui accueillent le don de Dieu, même sans savoir le nommer. Seulement, il peut y avoir aussi de fausses spiritualités où l'homme, au fond, essaie d'arriver à une perfection, même spirituelle, en se passant de Dieu, en se passant de toute transcendance. Et alors là, ce n'est plus la vie spirituelle, mais c'est de l'orgueil. Donc c'est possible. On ne peut pas du tout juger les personnes, mais c'est une attitude qui en soi est dangereuse. Mais tout dépend, des dispositions réelles, n'est-ce pas, intérieures du sujet. Mais de vouloir procurer le salut de l'homme sans Dieu, n'est-ce pas, est en soi la pire idolâtrie.
Est-ce que c'est pas aussi la suggestion du serpent?
Oui. Ah oui, on rejoint tout à fait la parole du serpent à Ève. Le serpent était un très grand maître spirituel en son genre, n'est-ce pas?
C'est grave comme ce qu'il disait, que le diable était toujours très profond.
Oui. Il y a toujours eu un certain rêve d'amour pur, n'est-ce pas, chez certains spirituels. Et ce n'est pas la grande tradition spirituelle chrétienne, précisément. Et les authentiques spirituels y ont toujours pressenti au moins un risque de déviation, un risque d'erreur grave.
Mais justement, ces doctrines orientales, actuellement, quand elles se trouvaient en Occident,
oui.
Est-ce que ce ne serait pas un peu des fois mélangé d'ailleurs à une attitude chrétienne? Ce ne serait pas un peu les faux prophètes dont parle l'Évangile?
Oui, et bien c'est une possibilité, c'est ambigu. Cet attrait des mystiques orientales, d'un côté peut-être provoqué par le fait qu'en Occident, il y a une espèce de famine spirituelle qui fait que les gens, n'ayant plus dans leurs églises souvent un enseignement véritablement spirituel, le cherchent là où ils croient pouvoir le trouver, n'est-ce pas? Et ceci, donc, peut recouvrir une authentique soif spirituelle et une authentique recherche de Dieu. Mais, bien sûr, elle risque fort de ne pas trouver l'aliment qu'il lui faudrait. Et puis, alors, d'autre part, il y a aussi le risque de chercher une expérience spirituelle, de chercher une certaine perfection que l'on croit être d'ordre spirituel, mais en faisant l'économie, précisément, de la croix et de toute l'ascèse. Et c'est certainement un des gros dangers des sectes et de bien des écoles mystiques s'inspirant de l'Orient, donner l'impression qu'avec une technique simplement, bon, une technique qui demandera bien sûr un effort, mais l'homme pourra tout de même par lui-même, n'est-ce pas, et par une voie courte, par une voie relativement facile, arriver à des résultats spirituels. Remarquez bien que dans les textes de tout à l'heure, n'est-ce pas, les textes évangéliques, le Christ ne nous donne pas du tout la joie comme quelque chose qu'on va poursuivre. La joie nous est donnée, et c'est la conséquence de cette joie de découverte du royaume qui va nous amener au renoncement. Mais le Christ ne nous demande pas de renoncer maintenant pour avoir la joie du royaume ensuite. C'est plutôt que la joie du royaume nous est donnée dès lors que nous le rencontrons et que nous l'accueillons, et le fruit de cette joie va être de tout relativiser. Ce n'est pas quelque chose de directement intéressé, vous voyez, hein. C'est un peu comme les miracles du Christ, n'est-ce pas? Le Christ ne fait pas des miracles pour provoquer la foi, mais à partir du moment où on a la foi, eh bien le miracle devient, je dirais, presque normal, parce qu'il y a passage à un autre ordre d'existence. On est dans le domaine du royaume qui fait éclater les limites du monde présent. Mais jamais vous ne voyez le Christ faire un miracle, un prodige, pour acculer les gens à la foi, en quelque sorte. Et de même, le Christ, si on voit l'ensemble de l'évangile, je n'ai pas tel ou tel texte que l'on pourrait tirer dans ce sens, mais jamais le Christ ne nous demande purement et simplement de faire un effort ici-bas, de supporter la croix, pour arriver à la résurrection qui nierait cet effort. Le Christ veut nous faire découvrir que le royaume est dans la croix, finalement. Et c'est pour ça qu'on peut dire, n'est-ce pas, que même la résurrection, le Christ ressuscité, le chrétien ressuscité, n'est pas moins crucifié dans une manière que dans la vie présente. C'est-à-dire d'une autre manière. Mais l'état de résurrection, la béatitude céleste, hein, sont un état où l'homme est totalement décentré de lui-même, n'est-ce pas, et dans un état de don de soi à Dieu et aux autres, qui, dans la vie présente, se traduira par la croix. Mais la croix n'est douloureuse au sens sensible du mot que parce que, précisément, par toutes nos fibres, nous attachons à nous-mêmes, à notre moi. Au-delà, une fois passé dans le monde de la résurrection, l'aspect douloureux disparaît parce que cet aspect douloureux implique encore une attache au moi. Mais à partir du moment où cette attache a disparu, eh bien, le don total de soi, le décentrement complet de soi, la dépossession absolue de soi-même, n'implique plus de souffrance. Mais elle va encore plus loin que l'état crucifié d'ici-bas. Et c'est cela qui est déjà présent dans la croix. Il ne faut pas du tout se représenter comme les choses, comme s'il y avait d'abord une phase donc douloureuse de renoncement, et puis une récompense qui serait, je dirais, du même ordre que les joies terrestres. Oui.
Je crois que justement c'est très important ce que vous disiez là. Il n'y a pas d'abord une période où l'on fait le vide en soi, où l'on se détruit, on a compris un tas de renoncements comme pour faire la place à Dieu.
Oui, oui.
Et ça a été au fond, enfin, la grande caractéristique, notamment en France, de tout ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, qui allait très très loin dans ce sens-là.
Oui.
Notamment le cardinal de Bérulle.
Oui, oui.
Qui annonçait continuellement l'anéantissement. Pour lui, toute la vie spirituelle, c'était l'anéantissement. Faire la place à Dieu. À tel point que les carmélites qui dirigeaient, finissaient par rêver, pas de rejoindre la pureté qu'elles avaient avant qu'elles ne fussent créées. C'est très, très caractéristique.
Oui, oui. Mais c'est l'époque aussi où il y avait tous ces, même alors chez Fénelon, ce souci du pur amour, n'est-ce pas, qui était très équivoque.
Alors, bien là,
oui.
En progressant, cardinal de Bérulle se rend compte que finalement, ce que Dieu nous reproche, c'est plus notre péché que notre condition de créature. Et là, il va parler cette fois-ci d'accomplissement, ce qui est quand même beaucoup plus positif. Mmh. Et vers la fin de sa vie, sous l'influence de Comorin, il retourne dans cette idée d'anéantissement. Et ça a été ça, ça a dominé vraiment toute la vie spirituelle française, notamment dans les grands séminaires.
Oui.
On annonçait avant tout, renforcé d'ailleurs par la consigne jésuite, agere contra, systématiquement, faire part à tous les désirs que l'on recensera, systématiquement. Mmh. Et à l'avance, dans un premier temps, pour que Dieu, éventuellement, s'il le veut, puisse à ce moment-là nous remplir.
Oui.
Alors, en général, on réussissait le passage, mais Dieu ne venait pas forcément.
Oui.
Alors, je crois qu'en effet,
oui.
la vraie spiritualité chrétienne, mmh. c'est au contraire d'abord la joie, et comme vous le disiez, c'est cette joie qui, après ça, va nous amener.
Oui.
À renoncer à quantité de choses.
Eh oui.
À ce moment-là, plus naturellement.
Mmh. Bon, eh oui.
Alors, et là, le. Dans cette spiritualité-là, on pourrait être
oui. Eh oui. Bon, on peut parler d'anéantissement, mais à condition que ce soit l'anéantissement compris, non pas vis-à-vis de l'être naturel, mais vis-à-vis de l'être déchu. Et c'est dans la mesure où en nous le moi égoïste, le moi déchu s'anéantit, que le vrai moi découvre sa plénitude et découvre la plénitude de la joie.
Il y a bien dans Saint-Paul, oui.
Oui.
Une conséquence de l'attachement au Christ.
Oui, absolument. Absolument. Oui.
C'est une idée qui est très présente même dans tout l'Occident, même non chrétien. Enfin, cette idée que on ne peut désirer quelque chose que s'il est absent.
Oui.
Alors que chez les pères, pas du tout. On ne désire Dieu que s'il est présent.
Oui, oui.
Précisément. Et les deux
oui,
vont
oui,
ensemble.
C'est très juste. C'est très, très
et ça,
juste.
Ça imprègne toute la littérature, oui. toute la philosophie,
oui,
toute
oui.
la pensée, toutes les mœurs
oui.
même. Et toute la mystique.
Oui. Marquez, on a quand même dans le 17e siècle français la parole de Pascal, là, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé.
Oui. Oui, Pascal est un petit peu...
Qui, elle, est très orthodoxe, je dirais, de ce point de vue-là, comme formule. Oui.
La parole de Pascal est traduite de Saint-Bernard, notamment...
Oui, oui, oui. C'est un je dirais, un des très bons éléments d'un certain courant augustinien, là.
Si vous voulez, ça laisse encore la possibilité au fait que, bon, Dieu nous ait trouvés,
oui,
mais que ce ne soit pas vraiment conscient. Si
oui,
vous voulez, en nous.
Oui.
Et donc, nous, on le cherche,
oui,
on est soif de lui,
oui,
mais sans le connaître.
Oui.
Alors qu'en réalité, on ne peut vraiment chercher Dieu que s'il s'est révélé,
oui,
pleinement.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait.
Consciemment.
Oui, oui. Mais là, ce que dit le Père Brune est très, très juste, et je crois que c'est l'équivoque de tout un courant spirituel qui a été très, très répandu jusqu'à notre époque et qui a été source de beaucoup de catastrophes, finalement. En Occident.
J'ai connu personnellement un sommet dans ce genre-là. C'était le supérieur de séminaire, enfin, dans les lectures spirituelles, pour la formation au sacerdoce proprement dit, abordant le chapitre de la vie affective du prêtre. Et disant, de la vie affective du prêtre, je vous dirai trois choses. Premièrement, elle n'existe pas. Deuxièmement, elle n'existe pas. Ça fait guillemets le troisième.
Oui.
L'aberration.
Oui. Oui, oui. Oui, absolument.
C'était en 1960, le séminaire de l'Institut catholique.
Oui. Oui. Oui.
Et paradoxalement, les doctrines comme la psychanalyse vont dans ce sens-là.
Oui.
Les doctrines comme la psychanalyse vont dans ce sens-là.
Oui. Vous êtes d'accord?
Aujourd'hui, on pourrait aider à l'homme de se décentrer de lui-même et pour faire un don totalement à lui.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, nous, d'accord, mais on n'a pas d'ailleurs, c'est pas plus difficile.
Oui. Non, mais ce qu'il faut d'abord, c'est découvrir.
Découvrir la notion du royaume.
Oui. 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 Qu'est-ce que je ne sais pas exactement votre question.
Tout à l'heure, on avait dit l'homme doit se décentrer de lui-même pour faire un don total, à peu près quelque chose.
Oui. Oui. Seulement, ça n'est pas quelque chose qui est antérieur au don de Dieu, mais c'est l'effet du don de Dieu. Et justement, se décentrer de soi-même,
oui,
se renoncer à soi-même, c'est communier à l'amour que Dieu est, n'est-ce pas?
Oui,
oui, oui.
Mais comment faire aujourd'hui? Parce que l'homme, au contraire, aujourd'hui, n'est pas du tout tenté de se déchanter.
Ah oui. Mais alors justement, tout le monde dans lequel nous vivons va toujours à rebours des exigences de l'Évangile. Et ceci ne peut se faire précisément qu'en rompant avec une certaine mentalité du monde, au mauvais sens du mot, n'est-ce pas? Et c'est la difficulté constante pour le chrétien. Oui, oui. Ah non, 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 mais absolument. Mais alors, c'est le refus de l'Évangile, c'est le refus du royaume. Et il faut savoir qu'étant chrétien, ça implique une rupture avec la logique naturelle du monde, c'est ça.
Vous
ne
pouvez peut-être pas préciser ce terme de décentré, parce que il fait un peu problème, par exemple, dans l'exercice.
Eh bien, par rapport, juste, c'est très difficile à exprimer de façon précise, mais ce que je veux dire là, n'est-ce pas, c'est que, si vous voulez, nous avons deux mois, n'est-ce pas, nous avons un mois qui est le mois empirique, le mois charnel, le mois non transfiguré, qui est un mois égoïste. Et ce qu'on rapporte à ce mois, eh bien, c'est un mois qui n'est pas en communion, si vous voulez. Et dans la mesure où je se rapporte à moi, on l'exclut, on se coupe des autres. Pour prendre un exemple très, très concret, prenez dans la nourriture ou n'importe, eh bien, ce que vous prenez pour vous, les autres ne l'ont pas. Dans le domaine du véritable moi, au contraire, c'est un moi qui est le moi personnel, le moi de communion. Au contraire, ce que vous mettez en commun avec les autres, tout ce qui est élément de communion correspond en même temps à votre être le plus profond à ce niveau-là. Le moi charnel, le moi non transfiguré, est un moi égoïste, un moi incommunicable, impénétrable, n'est-ce pas? Et au contraire, à l'autre niveau, vous êtes un tout autre pôle, qui est celui de la communion, qui est celui de... Où il n'y a plus de contradiction entre l'être profond, entre mon être profond, n'est-ce pas, et puis cet aspect de don, de communion et d'ouverture. Je m'exprime peut-être maladroitement, mais je ne sais pas si vous présentez ce que je veux dire. Non, pas sous cette forme-là. Les pères reprennent. J'essaie simplement d'avoir un mot qui explicite un petit peu l'idée de renoncer à son âme, si vous voulez. De renoncer à son âme, c'est-à-dire à son moi, finalement. De perdre son âme, au sens évangélique du mot.
C'est d'ailleurs curieux que les traducteurs des évangiles traduisent toujours, alors qu'en grec, il y a marqué « renoncer à son âme
oui. ».
Celui qui perdra son âme à cause de moi,
oui.
ils traduisent tous par « vie ».
Oui.
Celui qui perdra sa vie...
Oui. Et en fait, le mot « âme » ici, n'est-ce pas, le sens d'un peu d'un pronom réfléchi, finalement. C'est renoncer à son « moi », à l'âme, au sens de oui, où on pourra parler d'âme, mais non pas l'âme substance, oui. mais le « moi ». Le moi.
Oui.
Oui, 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 oui. Oui. Oui.
Oui. Il y a un texte où il dit « perdra son âme ».
Oui, « perdre son âme », c'est cela. Mais là, il y a eu un glissement très profond dans la conception de l'homme à l'époque moderne, n'est-ce pas, où on est devenu profondément individualiste, et où justement on confond complètement la personne avec l'individu, avec le moi individuel. Alors, dans le domaine de l'art, par exemple, c'est très sensible, un artiste ne sera lui-même que dans la mesure où son art sera l'expression de sa subjectivité, et à la limite, il sera incommunicable. Alors qu'au contraire, l'artiste ancien, l'iconographe par exemple, même ça, eh bien, l'iconographe peut être parfaitement lui-même dans l'œuvre qu'il exécute, et en même temps, il ne se sépare pas du tout des autres, il ne se coupe pas de la communion avec autrui. Le véritable moi, le moi personnel, peut être, je dirais, semblable à tous les autres, sans pour autant l'être par conformisme, l'être par pression extérieure, parce que son être profond est un être de communion. Alors que l'homme moderne s'imagine toujours que s'il renonce à son originalité, eh bien il renonce en même temps à son moi. Et on ne conçoit pas que l'on puisse renoncer à son originalité pour autrement que par un conformisme, par le fait de céder à une pression extérieure, alors qu'au fond, le véritable moi, le moi profond, est un moi où nous pouvons être parfaitement en harmonie, en communion, en communication avec les autres, je dirais à la limite, comme les autres, tout en étant parfaitement nous-mêmes. Et ça, dans la Sainte Trinité, chacune des personnes de la Sainte Trinité est parfaitement elle-même, et elle n'a rien qui la fasse qui la différencie des autres. Sur le plan de l'avoir, si j'ose dire, n'est-ce pas, de l'essence, le Père est exactement ce qu'est le Fils est exactement ce qu'est le Père, le Saint-Esprit sont le Père et le Fils, n'est-ce pas, il n'y a absolument aucune note, absolument rien qui les différencie, et cependant, ils sont plus que n'importe quelle personne créée à l'infini, n'est-ce pas, eux-mêmes, chacun. Et c'est ça la grande différence entre la personne et l'individu. L'individu s'approprie la nature, et au contraire, la personne est en communion totale sur ce plan, et la limite, c'est la consubstantialité trinitaire. C'est justement le propre de l'iconographe, n'est-ce pas, d'être parfaitement lui-même dans l'œuvre qu'il accomplit. Ce n'est pas un poncif, c'est bien sûr un bon iconographe, n'est-ce pas, il est parfaitement lui-même en peignant telle nativité, en peignant telle ou telle scène, et cependant, il n'y a aucune note, il n'y a aucun individualisme dans ce qu'il fait. Et la liturgie, c'est la même chose. La prière liturgique, n'est-ce pas, est une prière où nous utilisons des formules qui sont celles de toute l'Église, de toute la tradition, et nous pouvons en même temps être parfaitement et pleinement nous-mêmes. Et alors justement, l'homme moderne conçoit mal cela, et on arrive à cette fausse opposition d'une prière personnelle et de la prière liturgique. Comme s'il fallait, pour qu'une prière soit personnelle, qu'elle soit inventée de toute pièce, que nous exprimions, qu'elle soit le fruit de notre créativité. Alors là, c'est toujours confondre l'individu et la personne.
Mon père, aurez-vous la bonté de répéter ce que vous avez dit sur la Sainte Trinité tout à l'heure ?
Oui. Eh bien, je disais que dans la Sainte Trinité, n'est-ce pas, chaque personne de la Sainte Trinité est absolument elle-même. C'est dans la Sainte Trinité que l'on trouve la personnalité poussée à sa réalisation absolument parfaite. Mais en même temps, les personnes divines, je dirais, n'ont l'une par rapport à l'autre aucune originalité. Les personnes divines n'ont rien, sauf le fait d'être elles-mêmes, n'est-ce pas, d'être une personne, elles n'ont absolument rien qui est différencié l'une de l'autre. Voyez-vous ? Sur le plan de ce qu'elles possèdent, si on peut s'exprimer ainsi, n'est-ce pas, de ce qu'elles sont, elles n'ont absolument rien qui les différencie l'une de l'autre. Et ça ne les empêche pas d'être, au contraire, c'est dans cette communion totale qu'elles sont chacune absolument elles-mêmes. Voyez-vous ? Et je disais que la vraie personnalité chrétienne, c'est cela. C'est d'être parfaitement soi-même, en étant en même temps en totale communion avec les autres. Alors que l'individualisme moderne, n'est-ce pas, s'imagine facilement qu'on peut vraiment être soi-même que dans la mesure où on a quelque chose que les autres n'ont pas. Et on s'approprie quelque chose que les autres n'ont pas. Où on s'exprime d'une manière qui n'est que de nous et qui est incommunicable. D'où la tendance de l'artiste moderne, c'est d'avoir une œuvre qui, pour être authentique, deviendra hermétique.